Chapitre 89. La foule avait tout envahi. Autour des colonnes noires, de chaque côté de la galerie qui menait à la salle du conseil, des dizaines de gens se pressaient les uns contre les autres, les plus petits se dressant sur la pointe des pieds pour mieux voir. Les dignes statues en tuniques longues étaient elles aussi cernées de toutes parts, et quelques audacieux semblaient même très tentés de grimper sur leur socle pour avoir une vue plus dégagée. Le bourdonnement de milliers de voix finissait par faire osciller doucement les longs étendards rouges qui pendaient de la voûte, symbolisant le sang versé au fil des siècles pour défendre les contrées. Également rouge, le tapis qui couvrait le sol portait sur les côtés les noms glorieux des plus grandes batailles livrées par des héros prêts à mourir pour défendre leur nation et leur famille. En ce jour, l'enjeu du conflit ne serait pas seulement la survie des contrées, mais celle de tous les innocents du monde. Avant le soir, du sang risquait de couler de nouveau pour assurer le triomphe de la liberté sur les oppresseurs. Alors qu'elle remontait les trois corridors laissés libres par la foule, Magda arborait une expression parfaitement neutre. Sur son passage, les éclats de rire mouraient, les murmures se taisaient et les têtes s'inclinaient respectueusement. Tandis qu'elle avançait, le regard rivé droit devant elle, personne dans l'assistance n'aurait pu imaginer quel pouvoir fabuleux était tapis au plus profond d'elle. Au début, cette puissance lui avait semblé étrangère, comme si un monstre s'était introduit en elle. Une fois réveillée d'un étrange et terrifiant voyage dans les ténèbres, la jeune femme s'était sentie profondément modifiée, sans pouvoir dire exactement comment et sans savoir ce qu'elle était censée faire de ses nouvelles aptitudes. N'ayant pas le don, elle n'avait jamais eu de talent magique, et voilà qu'elle était investie d'un des plus formidables pouvoirs de tous les temps. Sans qu'elle puisse déterminer quand, au cours de cette longue nuit, sa magie avait cessé de lui paraître étrangère. Un peu plus tard, elle s'était mise à l'appréhender comme une part d'elle-même dont elle aurait simplement pris conscience sur le tard après des années de latence. Désormais, l'inquisitrice et la femme ne faisaient plus qu'une. Mais ce pouvoir, comme une source avide de jaillir, devait être en permanence contenu et contrôlé. Selon mérite, ce processus deviendrait avec le temps un réflexe presque aussi naturel que la respiration, par exemple. Au fil des heures, comme l'avait dit Mérite, la pression s'était faite moins forte. Un peu rassurée, Magda se demandait cependant ce qui arriverait lorsqu'elle lâcherait la bonde à ce pouvoir. Grâce à ses connaissances théoriques, Mérite avait pu émettre quelques hypothèses convaincantes, mais en toute franchise, il avait avoué qu'il ne savait rien avec une absolue certitude. Quand elle entra dans la grande antichambre circulaire de la salle du conseil, Magda vit qu'elle était également envahie de curieux. Quoi d'étonnant en un jour pareil? Et comment leur en vouloir d'écarquiller les yeux sur le passage de la future épouse du nouveau premier sorcier? Alors que les rayons d'un soleil radieux se déversaient par les hautes fenêtres, faisant briller le sol et les colonnes de marbre, Magda jeta un coup d'œil aux grandes statues des anciens et glorieux dirigeants des contrées. Une façon de leur demander du soutien, peut-être. De chaque côté des grandes portes ouvertes de la salle du conseil, des soldats de la garde civile en grand uniforme composaient une haie d'honneur. Dans la salle elle-même, la cohue était encore plus impressionnante. D'un pas tranquille mais digne, Magda entra et se dirigea vers l'estrade où son futur époux attendait en compagnie des 5 conseillers. Du bout d'un pouce, la jeune femme fit tourner la chevalière que Mérite lui avait offerte. Suivant le contour du symbole en relief qui ornait le bijou, elle se souvint qu'il représentait à la fois la force et l'importance de ce qui allait être en jeu. Des spectateurs vêtus de leurs plus beaux atours se pressaient sur les balcons et au niveau du sol. Magda identifia une foule de notables, de hauts fonctionnaires, de militaires, de sorciers et de magiciennes qu'elle avait connus au temps de Barakus. Très souriant, le général Grunwall était là avec tous ses officiers, ses homologues Rendal et Morgan ayant également fait le déplacement. En tunique verte, les soldats privés de Lothain se tenaient au garde-à-vous tout autour de la salle, à intervalles réguliers. En revanche, aucune force de la garde civile n'était présente ici, à part les officiers, bien entendu. Toujours impassible, Magda continua à fouler d'un pas très digne le long tapis d'apparat bleu et or. Assez près de l'estrade, Quinn suivait des yeux la progression de son ami. Derrière lui, Magda reconnut Nadja, vêtue d'un manteau dont la capuche dissimulait très bien ses traits et sa splendide chevelure noire. Sadler était là aussi. Souriant à Magda, il l'interrogea ensuite du regard sans dissimuler sa perplexité. Du coin de l'œil, la jeune femme capta ses signaux, mais n'y répondit pas. En cet instant, devenu un masque, son visage n'exprimait rien. Car les émotions n'avaient aucun rôle à jouer dans la vérité. Seule la réalité comptait et une inquisitrice vivait pour la vérité, pas pour les sentiments. Sur l'estrade, les conseillers siégeaient derrière leur longue table en quartier de lune. Des assistants avaient pris place derrière eux et une petite foule se tenait en retrait le long du mur. Occupant sa place habituelle au centre de la table, le doyen Cadel regardait lui aussi approcher la future femme de Lotin. Mérite n'était nulle part en vue. Les sbires du procureur l'ayant arrêté, enfin ayant au moins essayé, parader dans la salle du conseil aurait été assez peu judicieux. Refusant de déclencher une rixe, le sorcier n'était cependant pas bien loin. Entre deux colonnes, Magda vit briller le pommeau d'une arme. Si elle ne se trompait pas, c'était celui de l'épée de vérité. En grande tenue de procureur, Lotin se tenait sur le devant de l'estrade, là où tout le monde pouvait le voir. Lui non plus ne quittait pas Magda du regard. Soudain, il s'écarta, gagnant le côté gauche de l'estrade. Comme s'il répondait à un signal, plusieurs fonctionnaires en tunique jaune vinrent se camper devant Magda. Surprise, elle s'arrêta, puis se laissa guider vers le côté droit de l'estrade, monta quelques marches et, sur les indications d'un homme, se plaça en face du procureur. « L'endroit d'où elle assisterait à la cérémonie, » lui souffla le fonctionnaire. Une difficulté inattendue. Magda avait besoin d'être plus près de Lotin, car elle allait devoir le toucher. Normalement, une future épouse ne se tenait-elle pas aux côtés de son fiancé? La distance n'étant pas énorme, Magda envisagea de courir jusqu'à Lotin afin de le toucher. Mais le procureur semblait sur ses gardes, et il y avait un risque que ça ne fonctionne pas. Conscient que Magda n'était pas ravie de devoir l'épouser, un euphémisme, et il craignait sans doute qu'elle tente de lui enfoncer un couteau dans la poitrine. Une crainte ridicule car elle n'avait pas d'armes sur elle. D'ailleurs, où l'aurait-elle cachée dans la robe que les couturières lui avaient confectionnée? N'était son tout nouveau pouvoir, elle n'avait aucun moyen de nuire à Lotin. Mais il l'ignorait, bien entendu. Si elle se précipitait sur lui, il penserait à une attaque et utiliserait son don pour se défendre. À cette distance, la tuer serait un jeu d'enfant pour lui. Alors que faire? Sans le toucher, Magda ne pourrait pas l'exposer à son pouvoir. En d'autres termes, tout son plan risquait de s'écrouler. Quelque chose n'allait pas du tout. Le rictus satisfait de Lotin en était l'éclatante confirmation.